L'avantage des séries, et c'est une série que nous achevons ce matin, l'avantage des séries est qu'elle nous amène quelques surprises et le privilège en particulier d'aborder des sujets que nous n'abordons que rarement lorsque nous avons le choix. Et c'est donc le cas ce matin. Nous allons conclure notre lecture et méditation de la lettre de Paul aux Philippiens. Dans notre société matérialiste où prime le chacun pour soi, il est une denrée qui se fait rare. Je veux parler de la générosité. La générosité. Jusque dans l'Église, où la libéralité est une vertu en voie de disparition. Alors, je parle de l'Église en général. Cette qualité fait pourtant partie de ces sentiments qui étaient en Christ, qui, de riche qu'il était, nous dit l'Écriture, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et donc il importe aujourd'hui que nous demandions à l'Esprit de Dieu de nous remplir par souci de répondre pleinement à notre vocation en tant qu'enfant de Dieu, qui est, je le rappelle, de le glorifier, lui autrement dit, le rendre visible au monde en exprimant devant lui toute la richesse de sa personne. Ce que les chrétiens de la ville de Philippe, en Macédoine en particulier, avaient parfaitement compris, eux, dont l'apôtre Paul se plaît à faire ressortir l'étonnante qualité de leur générosité, faisant d'elle rien de moins qu'un modèle pour les croyants, un modèle pour nous. Lettre de Paul aux Philippiens, donc chapitre 4, nous lirons les versets 10 à 23. Philippiens 4, les versets 10 à 23. J'ai éprouvé, écrit l'apôtre Paul, une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique, déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ah, saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Une bien belle conclusion, assurément, pour cette lettre admirable. Donc, que son auteur, l'apôtre Paul, donc, aura voulu profondément pastoral jusqu'au bout. Conclusion qui est l'occasion pour lui d'honorer de fort belle manière la générosité exemplaire, j'y reviens, de ses amis macédoniens. Et ce faisant, de nous éclairer sur sa conception, divinement inspirée, faut-il le rappeler, de la générosité chrétienne authentique, et plus particulièrement sur la nature et le fruit de cette générosité. D'où notre méditation en deux parties ce matin, la nature de la vraie générosité et le fruit de la vraie générosité. La nature de la vraie générosité d'abord. Qu'est-ce qu'une générosité authentique ? Prenons donc pour modèle la libéralité des Philippiens, nous en relèverons ce matin quatre marques, quatre signes distinctifs. Une générosité vraie, une générosité selon Dieu, est en premier lieu une générosité concrète. Le verset 15, déjà, parle d'un échange de contributions. Au verset 16, ensuite, Paul évoque un don destiné à pourvoir à ses besoins. Avant de nous assurer, au verset 17, qu'il ne recherche pas les dons. Le verset 18, enfin, indique clairement que ce qu'il a reçu en provenance de Macédoine l'a comblé, en sorte qu'il s'estime désormais dans l'abondance. On comprend du coup sa joie. Littéralement, « je me suis immensément réjoui », écrit-il. Et sa reconnaissance réjouit dans le Seigneur, parce que mieux que quiconque, il sait qui est l'inspirateur de ce geste. L'intérêt soutenu que les Philippiens lui portent depuis qu'ils se sont rencontrés et que lui, Paul, les a comblés en partageant avec eux ce qu'il avait de plus précieux, l'Évangile. Cet intérêt, ils ont su le matérialiser par un don, et un don bien concret. Cette contribution dont ils ont chargé l'aimable Épaphrodite. C'est l'apôtre Jean qui écrira plus tard, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Mes amis, avons-nous compris ce que Dieu attendait de nous ? Avons-nous compris que ce qu'il attendait de nous et que nous aussi nous manifestions notre amour pour Dieu, pour lui, son œuvre, ses serviteurs ou ses enfants, par des offrandes, en nature, en espèces, mais des offrandes tangibles, palpables. Une générosité vraie, donc, une générosité concrète. Une générosité réfléchie, ensuite. Réfléchie plus souvent, je dis bien plus souvent, qu'improvisée. Verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » L'impression que nous laisse ce bref témoignage est que, bien avant d'avoir pu, je traduis ici littéralement les mots choisis par Paul, faire refleurir leur intérêt pour lui. Bien entendu, avant d'avoir pu faire refleurir leur intérêt pour lui, en pourvoyant à ses besoins, les Philippiens formaient déjà le beau projet de le combler. D'où la satisfaction et l'admiration de l'apôtre. Le don qu'il a reçu en provenance de la Macédoine n'est pas le produit d'une inspiration soudaine, d'une émotion passagère ou d'un emballement fugace que ses amis pourraient regretter, mais bien le fruit, parfaitement mûri, d'une réflexion communautaire largement inspiré par la reconnaissance. Cela faisait longtemps que les Philippiens désiraient exprimer leur affection et rendre à leur père spirituel la monnaie de sa pièce, si je puis dire. Ce n'était donc pas la volonté, ils brûlaient plutôt de retourner à leur manière les bénédictions reçues, mais l'occasion qui leur manquait encore. C'est pourquoi Paul peut être tranquille. Aucun risque que ses amis se repentent un jour de s'être montrés aussi généreux à son égard. Mes amis, nos libéralités sont-elles pareillement mûries ? Sont-elles, comme celles tant appréciées des Philippiens, le produit d'une réflexion sérieuse menée en dialogue avec Dieu et destinées à exprimer notre immense reconnaissance à son égard, ou seulement des gestes ponctuels faits par compulsion et qui, soit dit en passant, parce qu'ils sont fonction de notre humeur du moment, ne sont pas toujours bien ciblés, pas toujours. Une vraie générosité, une générosité selon Dieu, donc une générosité concrète et puis réfléchie, mais pas seulement. Une générosité généreuse. Une générosité généreuse. Début du verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, écrit Paul, avant d'ajouter, j'ai été comblé. Comblé. Le moins que l'on puisse dire est que les Philippiens n'ont pas marchandé leur soutien à l'apôtre Paul. Ils auraient pu réclamer des notes de frais en bonne et due forme ou des justificatifs au prêt. Et ils n'ont rien fait de la sorte. Mais comme un seul homme, ils se sont cotisés pour faire parvenir à leur pasteur une offrande à la mesure moins de ses besoins à lui que de leur gratitude à eux. C'est que, voyez-vous, quand on aime vraiment, on ne compte plus qu'à peu près. À peu près. Histoire juste de ne pas s'appauvrir soi-même en se montrant déraisonnable. Et là encore, je pose la question, mes amis, comment planifions-nous notre contribution à l'œuvre de Dieu ? Notre investissement spirituel ? Personnel, nos dons. Prenons l'exemple de nos offrandes. Sommes-nous de ceux qui, après qu'ils ont soigneusement examiné la courbe des collectes qui se trouve au fond de cette salle, se disent, oh là, du calme. Si je me montre trop généreux, l'Église risque de dépasser son objectif. Ou, super, les collectes sont celles attendues. Je peux donc passer mon tour ce mois-ci. Comme si église et abondance ne pouvaient pas rimer. Une idée bien implantée dans l'esprit d'un certain nombre. Église, abondance. Non. Où sommes-nous de ceux qui, parce que leur gratitude à l'égard de Dieu et leur amour pour les autres sont réels, profonds, immenses, non de cesse qu'il n'ait consenti un don coûteux ? Par quoi nous entendons ? Un don qui implique un sacrifice, un don qui fait un peu mal. Une vraie générosité, une générosité selon Dieu, donc, est une générosité généreuse, concrète, réfléchie et généreuse. Et pour finir, une générosité persévérante. Verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie, écrit Paul dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. » Et verset 16, « À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. » Ces textes suggèrent nettement ici qu'aussitôt après le départ de Paul pour Thessalonique, les Philippiens ont eu à cœur de lui venir en aide matériellement et qu'ils ne l'ont pas secouru une fois seulement, mais deux, trois, pour tout dire, régulièrement. Et en cela aussi, ils sont exemplaires, qu'il nous est difficile, en tant qu'individu surtout, mais en tant qu'Église parfois aussi, de faire preuve de constance en matière de générosité et d'inscrire notre soutien, qu'il profite à l'œuvre du Seigneur en général ou tel de ses ouvriers, dans la durée. C'est pourtant à cette persévérance que nous sommes exhortés, tant il est vrai que Dieu aime ceux qui donnent joyeusement et régulièrement, et pas seulement par à-coup, selon leur bon plaisir. Voilà donc en peu de mots pour la nature de la vraie générosité. Le moment est venu pour nous de nous intéresser à son fruit, le fruit de la vraie générosité. S'il fallait un mot, un seul, pour le résumer, ce serait à coup sûr le mot « joie ». Joie. La joie du bénéficiaire d'abord, bien sûr. Celle du donateur ensuite. Celle de Dieu enfin. La joie du bénéficiaire. Dans le cas de Paul, cette joie est énorme. J'y reviens. Verset 10, littéralement. Je me suis immensément réjoui. Mais en fait, pourquoi au juste s'est-il réjoui immensément? L'apôtre l'assure, ce n'est pas parce qu'il était en attente d'un secours quelconque et que son espoir a été concrétisé. Ce n'est pas à cause de mes besoins que j'écris cela, explique-t-il au verset 11, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Et pour le cas où il ne se serait pas bien fait comprendre, il ajoute au verset 12 et au début du verset 13, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Heureux homme qui a appris, lui, à être content. Mieux à s'estimer comblé, quelles que soient les circonstances de sa vie. Dans le dénuement, la détresse même, comme dans l'affluence. Dans la maladie, comme dans la santé. Et pourquoi ? Pour une simple et bien sûr excellente raison. Il a choisi, lui, une bonne fois, de faire définitivement confiance à son Sauveur pour pourvoir, en toutes circonstances, à tous ses besoins, que Dieu n'ignore pas et qu'il connaît au contraire parfaitement, selon sa richesse. Ce n'est donc pas parce qu'il espérait une aumône et que son vœu s'est réalisé qu'il est immensément heureux. Non. Mais parce que dans la situation peu enviable de détenu en attente de son jugement, qui est la sienne, le plus important est de se savoir aimer de ceux qu'il aime, lui, par-dessus tout, je veux dire, les Philippiens, ses amis qu'il a engendrés dans la foi. Or, cet énième don de leur part est un signe nouveau et tellement réconfortant de l'affection vive et profonde et durable qu'il continue de lui porter. N'oublions jamais, mes amis, le bonheur que ne manquera pas de procurer le plus petit sacrifice de notre part, ou la moindre de nos libéralités, à celle ou celui qui en bénéficiera. Rien n'est plus encourageant, stimulant, sinon euphorisant, que d'être la cible d'un amour suffisamment fort pour se fendre d'un geste gratuit. Veillons donc à nous montrer toujours plus généreux les uns à l'égard des autres, pour leur joie et pour la nôtre. Et nous voici parvenus tout naturellement au deuxième effet éminemment positif de la générosité, la joie du donateur. Au moins autant que le bénéficiaire, l'auteur du don généreux, est heureux. Alors pourquoi ? Pour deux raisons au moins. D'abord, parce qu'en contribuant ainsi à l'œuvre de Dieu, quelle que soit la forme de cette contribution, dès lors qu'elle est généreuse, il assure son avenir. Il assure son avenir. J'ai bien dit. Verset 14. « Vous avez bien fait, écrit Paul, de prendre part à ma détresse. » Vous avez bien fait. Pourquoi cet éloge ? Eh bien, parce qu'en se montrant généreux comme ils l'ont fait, les Philippiens sont d'ores et déjà assurés de recevoir la belle récompense que ne cesse de leur souhaiter l'apôtre. Seconde partie du verset 17, « Je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. » Ou, parce que le langage ici est un langage nettement commercial, « Je désire qu'à votre capital viennent s'ajouter de gros intérêts. » C'est ce que signifient littéralement ces termes. Le Seigneur, à qui aucun de nos gestes échappe, saura honorer leur libéralité en les inondant, pour ainsi dire, de bénédictions insoupçonnées. La leçon pour nous est claire. Si nous voulons être comblés au dernier jour en particulier, soyons généreux aujourd'hui. Celui qui sème peu, écrit Paul aux Corinthiens, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Quant au livre des Proverbes, il nous assure, l'un des textes au programme de la Bible en un an, cette semaine, il nous assure ce livre, l'un qui a donné avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse est comblée. Contribuons donc aussi largement que nous le pouvons à l'œuvre du Seigneur. Le seul investissement au monde dont nous pouvons attendre sereinement des retours extravagants et totalement disproportionnés. Mais il y a une seconde raison pour laquelle le donateur généreux est heureux. Il assure son présent. Il assure son avenir, mais son présent aussi. Verset 19. Ah, un de ces textes précieux entre tous. Et mon Dieu, affirme Paul, pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Formidable promesse que nous aimons à nous approprier aujourd'hui, tant elle est propre à rassurer les plus inquiets. Quelle Église n'a pas choisi un jour ce texte comme devise ? Problème. Nous oublions régulièrement qu'elle a été énoncée dans un contexte particulier, comme un encouragement adressé spécifiquement à des chrétiens qui s'étaient révélés particulièrement généreux. D'où nous concluons que si nous voulons hériter à notre tour de cette extraordinaire promesse, de cette extraordinaire assurance, il convient que nous commencions par faire preuve de libéralité. Alors seulement nous pourrons nous appuyer pleinement sur l'engagement divin à pourvoir à tous nos besoins matériels et spirituels, sachant que la richesse de ces ressources n'est pas seulement infinie, mais glorieuse, c'est le sens probable ici de l'expression avec gloire, et que cette richesse glorieuse est à notre entière disposition, grâce à Christ, à qui nous devons d'avoir affaire aujourd'hui à un Dieu favorablement disposé à notre égard. Mais il est temps maintenant d'examiner le troisième effet positif de la générosité, la joie de Dieu. La joie de Dieu. De Dieu lui-même, Paul l'évoque au verset 18, lorsqu'il parle du don des Philippiens comme d'un parfum de bonne odeur. Pour qui ? Pour Dieu. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Le vocabulaire était il y a peu celui de la finance. Il est maintenant celui du culte pour l'apôtre. Il ne fait aucun doute que si le geste généreux des Philippiens a fait un heureux, c'est Dieu, qui le reçoit comme une offrande personnelle particulièrement agréable. Pourquoi ? Le fait, cela me paraît important, le fait que les termes choisis ici pour qualifier le don reçu, parfum de bonne odeur, sacrifice agréable, sont les mêmes, presque, que ceux utilisés ailleurs, en Éphésiens 5 en particulier, en rapport avec le sacrifice suprême de Christ, nous met, je crois, sur la voie. Le don généreux n'est de loin pas la moindre de ces œuvres belles qu'il commande à ses enfants pour qu'elles le glorifient, au sens, j'y reviens, où elles le traduisent, elles, l'expriment, elles, le donnent à voir au monde, témoignent de lui, devant lui. C'est pourquoi il agrée ce geste entre tous. Parce qu'il est un signe, ce don généreux, est un signe donné aux hommes par lequel ils vont pouvoir commencer au moins d'entrevoir qui il est clairement. Et notamment cet être infiniment généreux. Encore faut-il que le geste dont nous parlons soit l'expression d'une générosité à l'image de sa propre générosité. Concrète, réfléchie, généreuse, persévérante, pour ne citer que ces qualités évoquées plus tôt. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu qu'à l'instar des Philippiens, nous trouvions notre plaisir dans le don et que notre générosité soit celle, soit telle que l'on puisse dire un jour de nous ce que Paul écrivait au sujet de ses amis macédoniens. Mais dans sa seconde lettre aux Corinthiens, cette fois chapitre 8, les versets 2 et 3. Des versets qui méritent qu'on les écoute attentivement. Au milieu même, Paul parle des Philippiens donc, de la grande épreuve de leur souffrance. C'est pas dans la joie, dans l'abondance. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Il nous faut conclure. Je propose de le faire ce matin en lisant et commentant, alors là, très brièvement, les derniers mots de l'apôtre. Versets 21 et 22 d'abord. « Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. » Deux remarques. Notons pour commencer la façon dont il désigne ceux qu'il demande aux responsables et aux diacres, probablement, de saluer de sa part et de celle de ses collaborateurs, saints en Jésus-Christ. Par quoi nous comprenons que c'est leur appartenance à Christ qui fait d'eux des êtres mis à part pour le service de Dieu consacré à lui. Remarquons ensuite que parmi les frères et sœurs présents aux côtés de l'apôtre figurent un certain nombre de fonctionnaires impériaux. Autrement dit, des hommes et des femmes au service de l'empereur, plutôt encourageant. Comme quoi, en effet, les fonctionnaires non plus ne sont pas inaccessibles à la grâce. Verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. L'usage voulait que l'on conclue sa lettre par une formule telle que « Salut » ou « Bonne chance » style SMS aujourd'hui. Paul, lui, choisit de le faire par une bénédiction. Une bénédiction dans laquelle, comme souvent, il invoque sur les Philippiens, rien de moins que l'essentiel, à savoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car est-il une chose dont ils auraient plus besoin ? Est-il une chose dont nous aurions plus besoin ce matin ? Quelle la grâce ? Pour couvrir nos fautes, encore et toujours, mais pas seulement, pour pourvoir à tous nos besoins et nous maintenir dans l'amour de Dieu jusqu'à la fin. Mes amis, permettez qu'avec mon prestigieux homonyme, je termine moi-même par ces mots, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit et demeure avec vous tous. Amen.